France Info.
Bonsoir, la désignation du candidat de la République en marche à Paris. Nous serons en direct de la Commission nationale d'investiture, mais également la tourmente pour François de Rugy, deux grands titres dans les informés avec vous. Bonsoir Guillaume Daret.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au service politique de France Télévisions. Avec nous également Jean-Sébastien Ferjou. Bonsoir Jean-Sébastien.
Bonsoir.
Co-fondateur et directeur d'Atlantico. Nous recevons ce soir Yann Brossa. Bienvenue.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole du Parti communiste français, maire adjoint de Paris en charge du logement, élu du 18e. Et avec nous également, bonsoir à vous et bienvenue Julie de la Sablière, fondatrice de l'agence de conseil Little Wing. Vous êtes enseignante en communication de crise à Sciences Po. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. Nous devrions donc connaître dans moins d'une demi-heure, et ce sera en direct sur France Info, la décision du bureau exécutif de La République En Marche qui doit désigner celui qui sera candidat pour la majorité présidentielle à Paris. Bonsoir à vous, Julie-Marie Lecomte.
Bonsoir.
Alors, vous êtes journaliste au service politique de France Info. Vous êtes en direct du siège de La République En Marche rue Sainte-Anne. Cédric Villani a déjà jeté l'éponge.
Oui, alors officiellement, on ne connaît pas encore le nom du candidat investi. Les membres du bureau exécutif de La République En Marche, le bureau exécutif, l'instance dirigeante du parti, sont en train d'arriver ici au siège. Ces membres vont valider d'ici quelques minutes le choix de la Commission nationale d'investiture, choix qui donc pour l'instant officiellement n'est pas encore Benjamin Griveaux. Dès que le vote aura eu lieu, les deux présidents de la Commission nationale d'investiture, Marie Guévenoux et Alain Richard, vont venir devant nous, devant la presse. Et là, ce sera vraiment la fin de ce faux suspense, puisque
Julie-Marie Lecomte.
L'essentiel était vanté depuis ce communiqué très amer de Cédric Villani. Avant 19h, heure à laquelle, pourtant, le parti avait demandé aux candidats de se présenter ici pour leur donner la primeur de la décision et la leur expliquer. Seul Benjamin Griveaux et Hugues Ranson sont ici à l'intérieur du bâtiment. Ce que je peux vous dire, c'est que l'attitude de Cédric Villani est très mal prise en interne et très haut dans le parti. On considère qu'en court-circuitant ainsi l'annonce officielle, Cédric Villani a, je cite, quitté la partie avant la fin, qui n'a fait preuve ni de responsabilité ni d'exemplarité. Autant vous dire que la petite musique du rassemblement derrière le candidat investi par la CNI risque d'être un petit peu difficile à jouer dans les jours qui viennent.
Oui, ça démarre plutôt mal. Merci à vous pour ce récit en direct rue Sainte-Anne, du siège de La République En Marche. Julie, Marie, Lecomte, Guillaume Daret, la messe est dite ?
Oui, la messe est dite depuis plusieurs jours. D'ailleurs, on savait que ça se dessinait autour de Benjamin Griveaux, qui avait fait lui aussi monter la pression. Il avait commencé à dire aussi que s'il n'était pas désigné ce soir, sous-entendu, si ce n'était pas lui, ou même si on avait une décision qui était reportée, eh bien, il pourrait tout simplement jeter l'éponge. Ouais. Parce que, évidemment, il aurait vu ça comme une forme de désaveu. Mais c'est quand même le plus compliqué qui commence. Parce que quand on voit dans le détail le communiqué de Cédric Villani, il explique que c'est lui qui travaillait aux valeurs d'Emmanuel Macron, qu'il fallait rappeler ce qu'avait créé Emmanuel Macron, qu'il regrette plus que jamais que ses appels n'aient pas été entendus. C'est pas du tout un communiqué de ralliement au candidat qui sera probablement choisi, en tout cas.
Aïe, 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 ça démarre mal. Jean-Sébastien Ferjou, avec Cédric Villani et ses mots que rappelle à l'instant Guillaume Daret.
Il faudra voir l'attitude que choisit d'adopter Cédric Villani une fois l'émotion du moment peut-être passée, parce que là, son tweet a dû être écrit sous le coup de l'émotion probablement, mais effectivement, ça n'évoque pas un rassemblement à marche forcée. Après, de toute façon, Emmanuel Macron devait trancher, parce qu'il est assez évident que le président de la République avait son avis à donner là-dessus, et c'est normal, d'une certaine manière, la victoire ou la défaite du candidat de la République En Marche à Paris sera analysée de toute façon comme à mettre au crédit ou au débit du président de la République ou de la République En Marche. Donc, qu'il s'y implique n'est pas anormal. En revanche, effectivement, et comme Cédric Villani l'a souligné, il fallait qu'il tranche, soit récompenser la fidélité à ceux qui ont été au cœur de la conquête du pouvoir, et Benjamin Griveaux faisait partie de cela, soit finalement rester sur une personnalité peut-être plus proche finalement de ce qu'ont été les valeurs portées par En Marche. Et c'était une espèce de dilemme, parce que Cédric Villani, justement, est plus lui dans la description que Benjamin Griveaux.
Julie de la Sablière, on va dire communication un peu ratée pour cette annonce, assez dynamitée par Cédric Villani.
Oui, parce que c'est pas un tweet en fait, c'est une déclaration
qui
Twitter.
Il y a un commentaire sur le
mais
tweet
effectivement,
aussi.
Oui. Qui oui. commence par dire ce qui était annoncé depuis longtemps, sous-entendu j'ai pas pu biaiser la partie et j'ai pas pu bousculer le jeu. Et il dit qu'il va s'exprimer prochainement sur les perspectives à donner, sans parler du tout de perspectives de ralliement. Donc on sent clairement une défaite amère et un premier pas de côté pour nous expliquer que le ralliement va s'acheter d'une manière ou d'une autre.
Yann Brossat, je rappelle que vous serez en face, hein, dans un des camps d'en face lors de cette bataille des municipales. Quel regard vous portez sur ce début d'entrée en campagne qui se dessine là ce soir de La République En Marche?
Moi, j'ai lu la déclaration de Cédric Villani et je trouve qu'il y a beaucoup d'aigreur et beaucoup d'amertume. Et je pense que les campagnes qui commencent comme ça se terminent mal en général. Puis surtout, tout ça est assez révélateur parce que ce qu'on lit dans sa déclaration, c'est que les dés étaient pipés dès le départ. Et qu'en réalité, tout ça n'était qu'une mise en scène visant à désigner Benjamin Griveaux parce que le choix du président de la République, c'était Benjamin Griveaux. Ça révèle aussi, je crois, une conception de ce que doit être le maire de Paris aux yeux d'Emmanuel Macron. C'est pas un maire, c'est un préfet qui n'est pas là pour défendre les intérêts des Parisiens, mais qui est là pour protéger le président.
Ah, vous dites, vous, un futur préfet, ce ne serait pas un vrai maire indépendant?
Bien sûr. D'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure, c'est le choix de la fidélité au président de la République. C'est-à-dire qu'il s'agit d'avoir quelqu'un qui défendra le président de la République à Paris et donc qui n'est pas là pour défendre les intérêts des habitants de cette ville.
Guillaume Daré, commentaire sur ce que dit à l'instant Yann Brossat.
Ce qui va être compliqué, je pense, c'est qu'il a déjà engagé le match avec Anne Hidalgo, presque comme quelqu'un qui serait le maire sortant. Il y a beaucoup d'analyses politiques qui vous disent aujourd'hui qu'il faut faire attention à Benjamin Griveaux, parce qu'à surjouer déjà en amont même de la désignation ce duel avec Anne Hidalgo, en cas de défaite du candidat de La République En Marche, il ne faudrait pas donner le sentiment que En Marche a perdu une ville dont il n'était finalement même pas titulaire, si j'ose dire, et donner le sentiment que ce serait un Hidalgo qui serait en train de conquérir une ville dont elle était, elle, la sortante. Je pense que c'est tout l'enjeu pour Benjamin Griveaux des prochains mois, de montrer que c'est bien lui qui est en conquête et que c'est pas Anne Hidalgo, parce que c'est un petit peu ce qu'on ressent aujourd'hui dans l'opinion publique.
Allez, on va en parler longuement dans quelques minutes, puisque ce sont les deux coprésidents de la CNI, la Commission Nationale d'Investiture, Marie Guévenoux et Alain Richard, qui vont s'exprimer depuis le siège de La République En Marche dans une quinzaine de minutes. Ce sera en direct sur l'antenne de France Info. Nous reviendrons donc largement sur la désignation. On verra de qui il s'agit, vraisemblablement de Benjamin Griveaux, je crois, mais peut-être Hugues Granson, à moins d'une surprise phénoménale. Nous verrons tout à l'heure et nous commenterons largement cette actualité. Nous allons revenir entre-temps sur la polémique autour des dîners de François de Rugy pour leur 20h10 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Solène Cresson.
Une femme tuée tous les trois jours par son compagnon ou ex-compagnon. Le ministère de l'Intérieur publie les chiffres des féminicides. 128 femmes mortes en 2018. Le gouvernement annonçait dimanche qu'il y aurait un Grenelle des violences conjugales à la rentrée pour enrayer ce fléau. Dans la course à la mairie de Paris, Cédric Villani a pris les devants. Il annonce qu'il n'aura pas l'investiture de La République En Marche face à ses concurrents Benjamin Griveaux et Hugues Granson. Annonce faite dans un tweet une heure avant la réunion du bureau exécutif qui doit désigner le candidat du parti. Le réseau Ozars à Torrens se porte partie civile dans l'affaire des fuites des sujets de maths au baccalauréat. La fuite était partie d'un lycée de ce réseau d'établissements de confession juive à Créteil. Un surveillant est mis en examen et soupçonné de les avoir revendus. 100 pompiers mobilisés près de Marseille pour essayer d'éteindre un incendie dans la zone industrielle de Vitrolles au bord de l'étang de Berre. Le feu menace des installations industrielles, disent les secours. Le trafic pour l'instant est interrompu sur l'autoroute A7 qui passe à proximité. Et puis sur le gazon de Wimbledon, ça y est, on connaît les affiches des demi-finales. Raphaël Nadal vient de se qualifier face à l'Américain Sam Querrey. Il affrontera Roger Federer et le Serbe, lui, Novak Djokovic, sera face à l'Espagnol Roberto Bautista Agut.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
François de Rugy épingle les dons par Mediapart pour des dîners décrits comme fastueux à l'hôtel de Lassé alors qu'il était président de l'Assemblée nationale. A débuté son offensive, c'était sur France Inter ce matin.
J'assume totalement qu'un président de l'Assemblée nationale, comme un ministre, rencontre dans un cadre informel, le soir dans des dîners, en plus des déjeuners le midi, parfois même des petits déjeuners, des responsables d'entreprise, des responsables de la culture, des responsables de l'université. Vous savez, quand je rencontre un sociologue ou un universitaire, un paléontologue, je vous disais hier au ministère, j'organise des conférences scientifiques, eh bien oui, j'assume totalement que cela puisse se faire dans des dîners, car et j'assume que ma femme ait pu et par participer à l'organisation
c'est
de
ça,
ces dîners.
C'est ça la question que pose Mediapart.
Et je me défendrai et je défendrai ma femme parce que je n'accepte pas qu'on nous attaque. Nous n'avons rien à nous reprocher, ni elle, ni moi.
Yann Brossat, il assume, François Drugy.
Oui, enfin, il assume et il fait semblant de ne pas comprendre quel est le problème. Le problème, c'est pas de dîner avec des gens qui sont des personnalités par ailleurs sans doute intéressantes. C'est le faste avec lequel il le fait. Et quand il dit « je fais cela pour être connecté à la réalité », quand on voit les images de ces dîners, tout ça donne quand même...
Mais les photos publiées par Mediapart,
les listes
de grands crus, etc.
Tout ça donne quand même une drôle d'impression. Et puis quand même... ce même gouvernement que François de Rugy soutient, auquel il a appartenu, passe quand même son temps à demander aux Français de se serrer la ceinture. Quand on voit ces images-là, effectivement, tout ça a quelque chose de choquant et d'assez contradictoire.
Julie Lassablière, des dîners de travail informels avec des personnes qui ont des relations avec une autorité politique, dixit le ministre de la Transition écologique, la défense est la bonne?
Mais qui sont ces gens? Et effectivement, c'est ce qu'on va chercher maintenant. Et c'est sûr qu'il va y avoir des grosses recherches pour savoir qui sont venus dîner.
Les convives, oui.
Les convives. Oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il s'est défendu de manière assez offensive ce matin. Il a attaqué fort. Il a rappelé aussi le moment où il est arrivé dans ce rôle. Et il a essayé de réduire le train de vie de l'Assemblée. Et il l'a fait. Il rappelait les chiffres ce matin, d'ailleurs, de manière utile, je pense, à sa défense. En revanche, une défense après le Conseil des ministres.
Non, on peut défendre sur une affaire pareille,
ce qui l'assassine, c'est les images. C'est là où Mediapart aussi a été de sortir ces images-là, et c'est sûr que c'est ça ce qui fait qu'il tourne sur les réseaux sociaux, les homards avec le château Ikem derrière. C'est quand même très difficile à faire passer, et c'est là où je vous rejoins, effectivement. Il y aurait pas eu ces images associées à l'article, je pense que le sujet tournerait moins, mais là, c'est vrai que ça le condamne.
Sa défense était beaucoup plus compliquée au Conseil des ministres. Effectivement, j'étais au point presse du Conseil des ministres, où il est venu, il était prévu qu'il vienne avec Brune Poirson pour évoquer notamment la loi pour lutter contre le gaspillage. Évidemment, ça a totalement parasité cela, puisqu'il a parlé, ils ont parlé de la loi anti-gaspillage, mais pendant près de 20 minutes, il s'est justifié, il a répondu à des questions, et c'est vrai qu'il est dans quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est vrai que maintenant, la seule façon qu'il aurait finalement de se dédouaner, ce serait de publier les noms des personnes qu'il a invitées pour montrer que c'était bien des personnes qui étaient en relation, comme ils l'ont dit, avec ses fonctions de représentation de président de l'Assemblée nationale. Mais ce qui est compliqué, à mon avis, pour François de Rugy, comme pour l'ensemble du gouvernement, c'est qu'un gouvernement qui veut donner cette image effectivement de probité, j'allais dire, malheureusement, aujourd'hui, les Français, ils ne s'intéressent pas énormément à la politique. Ils ne retiennent pas grand-chose de la politique, mais des choses comme ça, malheureusement, ils les retiennent.
Jean-Sébastien Ferjou, c'est ce qui pose le plus problème, j'imagine, cette image que donnent ces dîners en ville, à l'Assemblée nationale.
C'est ce qui pose problème dans les faits, effectivement. Après, moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez étonnant de voir qu'on se consacre autant à ces questions-là et pas du tout au gaspillage de milliards de l'État. Et je trouve que l'investigation sur ces sujets-là, finalement, n'est pas si intéressante que ça. Après, ça ne m'émeut pas plus que ça concernant François Drugy, parce que quand on essaye de faire de la morale soi-même en permanence plutôt que peut-être de la politique dans l'efficacité, François Drugy l'a fait à double titre, d'abord chez les écologistes et après dans La République en marche, effectivement, il faut... être à la hauteur de ce qu'on affiche. Mais encore une fois, du homard, on peut en trouver à Rungis, pas si cher que ça, finalement. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez ridicule, parce que, encore une fois, il faudrait plutôt être capable d'apprécier le coût, par exemple, de la loi anti-gaspillage. Parce que la loi sur l'interdiction, par exemple, de la destruction des invendus, ça coûtera beaucoup plus cher à l'économie française. Et on est en train de sombrer dans une espèce de politique où on se croirait en Arabie Saoudite avec les brigades de répression du vice et de prévention de la vertu, qui vraiment, je trouve, sont en train de plomber les débats démocratiques, parce que le sujet n'est pas qu'on attende des responsables politiques qui soient honnêtes, ni même qu'ils donnent l'exemple. Je comprends cette exigence-là. En revanche, j'aimerais bien qu'on mette autant d'énergie à investiguer sur l'efficacité des mesures politiques prises.
Alors, vous nous dites pas si grave ce soir. Finalement, les problèmes sont ailleurs. Les problèmes les plus importants.
Donc, ça serait intéressant de faire ça si on se donnait les moyens justement d'apprécier les décisions politiques qui sont réellement prises par.
C'est le retour de bâton en même temps.
Mais après, là où il y a quelque chose de complètement ridicule, c'est dans la défense de François Drugy, dire qu'il a besoin de ça pour garder le contact avec la France réelle. Franchement, je sais pas qui lui a donné ce conseil-là, mais c'est grotesque.
Alors, Delphine Bateau, députée présidente de Génération Écologie, a réclamé sa démission. C'était sur France Info.
C'est moralement inacceptable. En fait, c'est de l'argent public dont on parle. Et donc, dans l'exercice de haute responsabilité, que ce soit comme président de l'Assemblée nationale ou comme ministre, on ne mélange pas ses fonctions avec sa vie privée, sa famille, ses amis. Et donc, on n'utilise pas les moyens de l'Assemblée nationale pour faire une soirée fastueuse avec ses amis. C'est élémentaire. C'est un principe d'humilité et de modestie dans l'exercice des responsabilités qui est incontournable, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui sa démission s'impose.
Yann Brossat, vous réclameriez vous aussi la démission du ministre de la Transition écologique ?
Je ne sais pas, à vrai dire, à cette aune-là, je pense qu'il y en a quand même un paquet de responsables de premier plan qui devraient démissionner. Donc, je ne suis pas capable aujourd'hui de dire ça. Je ne dirais pas les choses en ces termes-là. Ce qui est sûr, c'est que je trouve ça choquant. Et effectivement, la défense de François de Rugy est grotesque. Grotesque. Parce que dire que c'est ça qui lui permet d'être connecté à la réalité, quand on voit à quel point ces images sont loin de la réalité sociale vécue par des tas de gens, je pense que ça choque du monde.
Voilà. Guillaume Daré,
Les termes officiels et diplomatiques de la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye, François de Rugy conserve, je cite, toute la confiance du président de la République et du Premier ministre. Donc à l'heure où on se parle, il n'est pas question pour l'instant de démission.
Elle a ajouté, il me semble, bien évidemment. Et ce qui, à chaque fois qu'on dit, vous savez, très honnêtement, naturellement, etc., ça attire plutôt l'attention sur le fait que
les entraîneurs de football passent soutien quelques heures avant de les licencier après un mauvais résultat.
Oui, c'est la confiance. Une manière de formuler les choses qui est un peu dans l'anti-message parfois.
Guillaume Daré, cela signifie que l'Élysée et accessoirement Matignon ont demandé au ministre de l'écologie d'y aller personnellement pour essayer de tenir la position. C'est ça l'idée finalement.
C'est ce qui était assez marquant dans ce point presse du Conseil des ministres, c'est qu'ils savaient qu'ils n'y échapperaient pas. Donc en matière de communication, Julie serait probablement mieux que nous, mais dès le début, ils ont clouté les choses en disant « Vous inquiétez pas les journalistes, vous allez pouvoir poser vos questions, on vous accordera tout le temps nécessaire pour que François de Rugy réponde à toutes les questions. » Donc ils ne veulent pas donner le sentiment non plus qu'on met la poussière sous le tapis, mais je pense qu'il s'est quand même bien fait remonter les bretelles, François de Rugy, pour expliquer à la presse ce qui s'était passé, parce que je crois que ce n'est pas la première fois, il y avait déjà eu une polémique. Et c'est pour ça que lui aussi, comme argument, était là à dire ce qu'il a dit ce matin sur France Inter, j'ai baissé, ce qui visiblement est vrai d'après un questeur de l'Assemblée nationale que j'ai eu au téléphone, qu'il a baissé de 13%, je crois, les frais de représentation à l'hôtel de la Cé à l'Assemblée depuis qu'il est arrivé, c'est en tout cas ce qu'il affirme.
Allez, 20h20 sur France Info. Nous marquons une pause avec le rappel de l'info et vous, Solène Cresson.
On va continuer à se battre. Réaction sur France Info de la directrice générale des laboratoires Boiron après l'annonce du déremboursement total de l'homéopathie à partir de 2021. Valérie Lorenz-Poinceau assure que plus d'1 200 000 personnes ont déjà signé une pétition pour le maintien du remboursement. Le groupe Sud-Ouest va supprimer 132 postes. Le journal connaît de grosses difficultés financières avec une baisse de 6 à 7% de sa diffusion papier chaque année. Le président du groupe annonce aussi la fermeture du bureau d'Angoulême. Il y avait déjà eu un plan de départ volontaire de 124 personnes en 2014. EDF obligé de réaliser des travaux complémentaires sur la centrale du Tricastin dans la Drôme. L'autorité de sûreté nucléaire demande à l'électricien de réaliser ces travaux d'ici au 31 décembre 2022. Ils font suite à des travaux de fin 2017 sur le site. Angela Merkel va très bien. La chancelière allemande doit rassurer alors qu'elle a de nouveau tremblé de tout son corps tout à l'heure en fin de matinée. Une troisième crise de tremblement en moins d'un mois, mais toujours aucune explication. Trop fort au sprint dans son maillot vert, Peter Sagan remporte la 5e étape du Tour de France à Colmar. C'est la 12e victoire d'étape sur la grande boucle pour le Slovaque. Notre Français Julien Alaphilippe, lui, garde son maillot jaune.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Allez, décryptage suite, c'est Guillaume Daré qui évoquait donc ce conseil des ministres et ce ministre un petit peu dans la tourmente, on va le dire, prié d'aller s'expliquer devant la presse.
Même si juste pour la pression, officiellement, ça a été évoqué évidemment au point presse, mais officiellement, la porte-parole nous a dit que ça n'avait pas été évoqué au cours du conseil des ministres.
Allez, extrait donc de la conférence donc de François de Rugy.
Je le dis avec force, il n'y a pas eu de dîner entre amis qui aurait été organisé sous ma présidence à l'hôtel de la Cé et qui aurait été financé par l'Assemblée nationale. C'était des dîners de travail informels avec des personnes qui ont des relations avec une autorité politique comme le président de l'Assemblée nationale. Et je tiens, pour finir, à dire que naturellement, je me tiens à la disposition de la déontologue de l'Assemblée nationale, dont j'ai renforcé les pouvoirs, lorsque j'étais président de l'Assemblée nationale, contre la volonté de tous les groupes d'opposition, d'ailleurs. Et moi, j'ai renforcé ses pouvoirs. Et donc, je me tiens naturellement à sa disposition pour répondre à toute question de sa part.
Julie de la Sablière, dans une telle situation, en termes de communication politique, quel est l'idéal? C'est cette posture-là? C'est essayer de la case humour? Quelle est la meilleure idée, la meilleure piste?
Voilà, la case humour est quand même un peu compliquée. Il faut bien
le
reconnaître.
Donc, le ton n'était pas à l'humour. Hein,
le ton n'était pas vraiment à l'humour. Et effectivement, sa défense, on le sent, est quand même un peu emberlificotée, on va dire, entre effectivement, c'était des amis, pas des amis. On sait qu'il y en a certains qui étaient des amis de sa femme, d'autres des gens qu'il connaissait. Donc, c'est là où la liste va devenir un enjeu. Il en fait un enjeu lui-même en ayant ce type de défense.
C'est très maladroit.
Et c'est ça qui est très maladroit de sa part. Et le risque maintenant, c'est évidemment le feuilleton. En fait, il ouvre le feuilleton, et il nous donne juste envie d'en savoir plus, alors que je suis assez d'accord, il y a des sujets quand même plus importants à traiter en France.
Jean-Sébastien Ferjou, il nous évoque d'ailleurs la déontologue de l'Assemblée nationale, Agnès Roblot-Troisier. Alors, ce n'est pas une élue, il faut le rappeler, c'est une agrégée de droit de public à la Sorbonne Paris 1, déontologue de l'Assemblée nationale. Elle observe le silence Guillaume Daré, en fait, c'est une sorte de, on va dire, d'autorité indépendante à l'Assemblée. On la consulte, elle donne un avis qui est souvent confidentiel d'ailleurs.
Confidentiel, mais qui pèse, parce que symboliquement, si demain la déontologue de l'Assemblée nationale estime que ces dîners organisés par François de Rugy ne devaient pas avoir lieu, ça fera quand même du bruit. Donc c'est vrai qu'on va regarder si elle décide ou pas de se pencher sur les dîners de François de Rugy, qui était à l'époque président de l'Assemblée nationale, si au contraire, elle peut estimer qu'il n'y a pas à ouvrir effectivement une forme d'enquête ou en tout cas d'investigation, mais c'est vrai que c'est pas que symbolique, parce que le mot de déontologue et donc de déontologie pèse lourd symboliquement aujourd'hui et politiquement dans l'univers français.
Ah oui, déontologie, c'est vrai que ça raconte une histoire. Jean-Sébastien Ferjou, il y a un an, Emmanuel Macron vivait un été d'enfer avec l'affaire Benalla, faut-il le rappeler. Est-ce que c'est un petit peu gare à la récidive, gare à ces histoires qui naissent comme ça de pas grand-chose et qui finalement peuvent empoisonner la vie d'un quinquennat?
Il me semble qu'on est assez loin de l'affaire Benalla quand même avec ces histoires de dîner de François de Rugy. Dans l'affaire Benalla, il y avait potentiellement un certain nombre de questions sur l'organisation de l'État ou l'organisation de la sécurité du président de la République qui se posaient, qui étaient beaucoup plus lourdes que ces histoires. Effectivement, on peut considérer que ça relève de la déontologie si on veut, mais ça va pas beaucoup plus loin au-delà du fait, comme on l'a dit, qu'il s'est enfermé dans une défense à la fois grotesque et maladroite parce qu'il tend de lui-même le bâton pour se faire battre. Parce que justement, il incite à ce qu'on aille vérifier qui étaient les personnalités qui étaient présente avec lui. Maintenant, encore une fois, très bien qu'on se soucie de déontologie, mais j'aimerais bien qu'il y ait aussi une efficaceologue, par exemple, à l'Assemblée nationale, c'est quand même ça le rôle d'un parlementaire.
Une efficaceologue, oui.
Quelqu'un qui serait là pour apprécier l'efficacité.
De vérifier la bonne application des lois.
Oui, mais c'est censé, dans les démocraties modernes, les parlements sont plus là pour voter la loi. Ça fait bien longtemps ils le sont pour le voter formellement. Ils ne sont plus là pour écrire la loi. En revanche, ils ont une mission de contrôle. Et cette mission de contrôle, elle n'est pas exercée. Après, plus largement que ça, les Français sont quand même totalement schizophrènes parce qu'on réclame une monarchie. On est dans une culture de face monarchique. Moi, je veux bien qu'on essaie d'être scandinave demain, mais enfin, on ne l'est pas et personne ne l'est. Personne ne se comporte de la manière dont on prétendrait que les responsables politiques se comportent. Et comme eux-mêmes n'ont cessé de scier la branche sur laquelle ils étaient assis, à défaut d'essayer de nous convaincre qu'ils sont efficaces ou qu'ils mènent des politiques qui sont bonnes pour le pays, ils essaient de nous convaincre qu'ils sont plus blancs que blancs. Et ben, à ce jeu-là, ils seront de toute façon toujours les premières victimes.
Yann Brossat, vous partagez le point de vue de Jean-Sébastien Ferjou. Vous-même, d'ailleurs, vous êtes élu à la mairie de Paris. Est-ce qu'aujourd'hui, désormais, les élus font attention à leur train de vie, tout finit par se savoir, par sortir. On fait attention.
Oui, enfin, en tout cas, on n'est pas du tout dans ce type de dîner. À Paris, on est plutôt poulet froid et taboulé le midi, depuis l'élection de Bertrand Delanoë, d'ailleurs, qui avait fait de ça un marqueur, notamment, par exemple, en transformant les appartements privés du maire en crèche municipale. Mais pour le coup, lui s'est tenu à ces principes-là. C'est vrai que quand on annonce un certain nombre de choses, quand on présente sa vertu comme un argument politique, il vaut mieux que ça suive derrière. Et là, le problème quand même, c'est que les marcheurs avaient fait de la moralisation de la vie politique un marqueur très important. C'était d'ailleurs, je crois, la première loi qui avait été votée par la nouvelle Assemblée quand Macron a été élu. Donc se retrouver avec des images comme celle-là après, ça pose un réel problème.
Marcheur et également, on pourrait rappeler, Yann Brossat, 6 mois de manifestation des Gilets jaunes que vous avez vécu à Paris en première ligne et finalement qui racontait aussi une forme de contestation de l'ordre établi.
Oui, bien sûr. Et puis une méfiance très forte vis-à-vis de la classe politique. Et au fond, moi, je ne pense pas du tout que tout ça va nous permettre d'élever le débat. Si tout l'été se fait autour de ces affaires-là, les seuls qui tireront les marrons du feu, ce sera l'extrême droite, d'ailleurs.
Il suffit de regarder la décoration qui entoure en général Donald Trump. Il aime bien tout ce qui est doré pour constater que, de toute façon, les questions de moralité sur ce terrain-là ne sont pas nécessairement des critères d'efficacité électorale.
Allez, nous marquons une pause dans les informés. Nous attendons toujours la décision de la CNI, hein, de La République En Marche. Il est quasiment 20h28. Une pause météo, rappel de l'info. Et on se retrouve dans quelques minutes pour la suite des informés.
S'il fait chaud, on aime se calfeutrer à l'intérieur, volets fermés. Mais l'air intérieur peut être pollué jusqu'à 5 fois plus qu'à l'extérieur. Alors procurez-vous un ventilateur purificateur Dyson PureCool. Il vous rafraîchira avec de l'air purifié, en éliminant plus de 99% des particules aussi fines que les virus, pour que vous ne les respiriez pas chez vous. Dyson PureCool. Ventile un air purifié, pas un air pollué. Pour en savoir plus, visitez Dyson.fr. Testé par l'Institut Pasteur de Lille sur le virus H1N1 en septembre 2018.
Salut, c'est Bruno Solo. Vous savez, cette année, le 14 juillet est différent des autres, car Lino Ventura aurait eu 100 ans. Alors ensemble, poursuivons son combat pour Personnage et les personnes en situation de handicap. Pas question de se défiler. Pour la Fondation Personnage, on se bleu, blanc, bouge. Tous. Rendez-vous sur personnage.org.
France Info Météo, avec le CIC, banque numéro 1 au podium de la relation client 2019. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
La météo, les prévisions avec vous, Elodie Calac pour Météo France.
Plus nuageux demain entre les frontières du Nord, le Centre, le Nord de l'Auvergne et de Rhône-Alpes, ce sera bien voilé, on ne sera pas à l'abri d'une ondée. Ça s'éclaircira l'après-midi entre le Nord et l'Île-de-France. Sur le Grand Est, ce sera plus encombré, parfois avec une averse. Entre les côtes de la Manche et Poitou-Charentes, la matinée sera souvent bien nuageuse, mais les éclaircies reprendront le dessus l'après-midi. Et puis du sud-ouest vers la Méditerranée, le soleil sera au rendez-vous, parfois un peu voilé. Sur l'est des Pyrénées, le sud des Alpes, la montagne Corse, on pourrait avoir une petite averse l'après-midi, un peu de vent pour le Roussillon et le sud de la Corse. Le matin, il fera 12 à 19 degrés, jusqu'à 20 à 23 sur le sud-est. L'après-midi, un peu comme aujourd'hui, 23 degrés à Cherbourg et Strasbourg, 28 à Nantes, Dijon, Aurillac, 29 degrés à Paris et à Lyon, 30 à Tours, Nevers et Bordeaux, 32 pour Toulouse, pour Marseille et 34 à Nîmes.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
France Info, il est 20h30, toute l'info avec vous. Bonsoir Thomas Bénèche.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. La Commission nationale d'investiture de La République En Marche vient de choisir, elle désigne Benjamin Griveaux comme candidat LREM au municipal à Paris en 2020. Julie-Marie Lecomte.
Oui, on attend ici dans la cour hein, du siège de la République En Marche rue Sainte-Anne à Paris. Les deux présidents de la Commission nationale d'investiture qui vont l'annoncer très officiellement. Mais effectivement, Benjamin Griveaux sera le candidat de la République En Marche. Avant même 19h, Cédric Villani avait annoncé dans un communiqué particulièrement amer que, je cite, « l'appareil du parti présidentiel n'avait pas retenu sa candidature ». Il n'est pas venu hein, ici au siège, alors que les candidats y avaient été invités pour se voir annoncer et expliquer la décision de la commission d'investiture. Hugranson, lui, s'était déplacé, mais il est déjà parti depuis un bon quart d'heure sans un mot, visage fermé. Benjamin Griveaux, l'ancien porte-parole du gouvernement, est donc le seul, toujours à l'intérieur, avec les membres du bureau exécutif et plusieurs ministres marcheurs.
Julie-Marie Lecomte, en direct de La République En Marche, au siège du parti à Paris, avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro. François de Rugy conserve la confiance du président de la République et du Premier ministre, fait savoir la porte-parole du gouvernement. Le ministre de la Transition écologique est montré du doigt dans un article de Mediapart, le site d'information en ligne. Il rapporte des dîners informels fastueux organisés entre octobre 2017 et juin 2018 à l'hôtel de Lassé, résidence du président de l'Assemblée nationale, poste qu'occupait alors François de Rugy. 121 femmes tuées en 2018 sous les coups de leur conjoint ou ex-compagnon. Le bilan est dressé ce soir par le ministère de l'Intérieur. La secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes a annoncé la tenue d'un Grenelle des violences conjugales le 3 septembre prochain. Dans l'affaire des fuites à l'épreuve de mathématiques du baccalauréat, le réseau d'établissements scolaires de confession juive aux Aratora se porte partie civile. Un surveillant de l'un de ces lycées à Créteil est impliqué dans ce dossier. 6 personnes au total sont mises en examen. La directrice générale de Boiron espère sur France Info pouvoir faire entendre raison à la ministre de la Santé et au président de la République. Elle réagissait ce soir sur notre antenne à cette décision du gouvernement de supprimer en 2021 le remboursement total de l'homéopathie, secteur où Boiron est à la fois fabricant et distributeur de ses médicaments. Dans le dossier du nucléaire iranien, Donald Trump hausse une nouvelle fois le ton. Le président américain promet que les sanctions infligées au régime de Téhéran seront bientôt considérablement alourdies. Enfin, le Tour de France, 5e étape, avec une nouvelle victoire au sprint cet après-midi, celle du Slovaque Peter Sagan. 20h33 sur France Info. La suite des informés, Jean-François Killy.
France Info, les informés, Jean-François Aquili.
Et nous devrions être en direct avec la déclaration des deux coprésidents de la Commission nationale d'investiture, Marie Guévenoux et Alain Richard, tout de suite.
Alain, est-ce que tu veux...
Pourquoi ?
Alors, les trois présentations avaient leur valeur, les candidats avaient beaucoup travaillé, ce qui a conduit les membres de la CNI, et c'est un choix pleinement partagé entre eux, à retenir la proposition de Benjamin Griveaux, c'est la profondeur de son analyse de la situation dans Paris, le très gros travail qu'il avait fait de contact dans la ville depuis longtemps, dans tous les secteurs où va se dérouler l'élection, avec énormément de soutien des adhérents, des militants d'En Marche, très répartis dans tout Paris, et notre perception que, disons, l'éventail de ces propositions répondait très bien aux attentes et aux préoccupations des Parisiens.
Cédric Villani, vous a grillé la politesse, est-ce que ça...
Nous avons entendu des trois candidats hier après-midi avec une grande satisfaction leur adhésion au choix qui allait être fait et leur volonté de participer ensuite à l'action. Nous l'avons entendu avec plaisir. Je souhaite finir ma phrase. Nous l'avons entendu avec plaisir du Grand Son et de Cédric Villani, qui a par ailleurs, comme vous le savez, signé l'engagement, comme tous les candidats que nous recevons, de soutenir le candidat choisi par le mouvement.
Il ne dit pas ce soir qu'il le soutiendra.
Nous considérons que son engagement le lie et nous avons toute confiance dans la démarche de Benjamin Griveaux de poursuivre la recherche d'un rassemblement complet.
C'est un engagement à ne pas critiquer votre choix.
Non, c'est un engagement de respecter la décision.
Ah, oui, mais pas les...
Vous aurez la copie du texte si ça vous intéresse. Tout le monde peut être déçu d'un choix. Ça nous est arrivé à tous. Il y a une collectivité du mouvement En Marche, il y a une dynamique que nous avons déjà à Paris. Franchement, aujourd'hui, entre qui et qui se joue le match à Paris ? Donc, l'esprit de responsabilité l'emportera.
Est-ce que vous savez pourquoi Cédric Villani n'a pas souhaité être présent ici ce soir ?
Il ne nous l'a pas dit, mais il nous avait dit, les yeux dans les yeux, hier, qu'il serait solidaire de la décision et qu'il participerait à la campagne commune. Donc je pense qu'il va se reprendre et je pense qu'il faut qu'il soit attentif à l'effervescence de son entourage.
Vous dites se reprendre, c'est-à-dire que vous regrettez sa position ce soir ?
J'espère qu'on l'aura oublié demain.
Hugues Granson, son ralliement, c'était pas net non plus ce soir. Il est parti avant que les résultats soient très officiels.
Il n'a pas l'air d'avoir envie de se rallier non plus.
Je crois qu'il ne faut pas vous fonder sur l'air.
Benjamin Griveaux, t'es présenté comme...
Plus grandement, attendez. Vous savez, la CNI a proposé au bureau exécutif, mais c'est le bureau exécutif qui vient à l'instant de voter. Et Hugues était dans l'attente du vote et du respect des formes dans le cadre de la procédure qui nous engageait.
Nous avons confiance et lui maîtrise son entourage.
Benjamin Griveaux était le candidat présenté comme favori depuis des mois. Est-ce que
tout le monde a le droit de présenter ce qu'il veut.
Est-ce que vous
la réalité, puis-je me permettre de vous le rappeler, est que les membres de la CNI sont indépendants. Ils l'ont déjà montré dans plusieurs des choix qu'ils ont faits. Ils le montreront à nouveau et ils ont fait ce choix de manière ouverte.
Est-ce que vous craignez pas tout de même un procès en insincérité dans le choix de Benjamin?
Tous les procès sont possibles, il faut encore qu'il y ait des preuves quand on accuse.
Quand vous avez été reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron, vous n'avez pas parlé des municipales à Paris?
On lui a demandé de nous confirmer que le choix était ouvert, et c'est bien ce qu'il nous a dit.
Quand vous dites Villani ne maîtrise pas son entourage, ça veut dire quoi exactement?
Je n'ai pas dit ça. Je l'appelle à bien maîtriser son entourage. Je pense que c'est utile pour tout le monde.
Est-ce que si Éric Villani ne soutient pas Benjamin Griveaux, il pourrait être exclu?
C'est probable. C'est la règle du mouvement. Et tout le monde la connaît. Et nous nous sommes permis, Marie et moi, d'indiquer dès le début, il y a plusieurs mois, à nos dirigeants, qu'il fallait que cet article des statuts soit appliqué si le sujet se présentait.
Mais quoi qu'il en soit, nous n'en sommes pas là. Donc, c'est pas le sujet. Donc,
Qu'est-ce qui a fait la différence, finalement, pour que Benjamin Griveaux soit le candidat et pas Cédric Villani ou...
J'ai essayé de le dire, sans doute.
Non, mais qu'est-ce qui manquait chez Villani, alors? Voyons-le différemment, d'un point de vue de Villani. Qu'est-ce qui lui manquait?
Il y avait une inspiration. Il y avait des idées novatrices. Nous avons été nombreux à penser qu'elles avaient encore besoin d'être confronté avec la réalité, avec le système institutionnel de Paris, avec la gestion d'une collectivité qui a un budget de 9 milliards, où tout ne va pas bien, et avec une multitude de services à la population qu'il faut savoir gérer, avec sans doute beaucoup d'améliorations attendues par les citoyens parisiens. Et donc, nous avons été nombreux. Il se trouve que dans cette commission d'investiture, nous sommes une bonne moitié à avoir eu des responsabilités locales, parfois assez vastes, parfois assez longues. Nous partagions le sentiment que le projet et la méthode de Benjamin Griveaux étaient plus organisés et plus durables face à la réalité de la campagne, où chaque chose que nous dirons pourra être contredite. Donc il faut être sûr de ses arguments et de ses données, et qu'elle pouvait aussi, dès le premier jour de l'élection, en cas de succès, résister à la réalité.
Est-ce que cette désignation est définitive? Vous pouvez l'assurer à 100% si sa campagne ne prend pas en automne, etc. Il ne sera pas remplacé, ce sera lui à 100%.
Bien il n'y a sûr. Aucune raison que sa campagne ne prenne pas. On est attendu en CNI pour repartir au Burex.
Je crois que vous savez tout.
Merci.
Après, c'est vous qui commentez.
Merci.
Est-ce que Benjamin Griveaux va venir nous voir?
Ah. Non, on est responsable de la CNI. On est responsable.
Et vous ferez des propositions.
Merci.
Merci.
Voilà donc la déclaration, vous l'avez vécue en direct de la rue Sainte-Anne devant le siège de La République En Marche des deux coprésidents de la Commission nationale d'investiture qui ont donc validé la candidature de Benjamin Griveaux au municipal à Paris. Nous allons décrypter dans un instant, commenter ce qui a été dit à propos de cette candidature et du cas de Cédric Villani. Pour l'heure, je vous propose de marquer une pause rapide, 20h41 sur France Info. Tout d'abord, le rappel de l'info avec vous, Solène Cresson.
Il était le favori, Benjamin Griveaux est donc investi par La République En Marche ce soir pour être le candidat du parti aux élections municipales à Paris. Le bureau exécutif LREM se réunissait ce soir. Une heure avant, Cédric Villani, l'un des trois candidats, avait déjà jeté l'éponge dans un tweet. Il est temps que la sobriété républicaine remplace la République somptuaire. Réaction ce soir sur France Info de Mathieu Caron, directeur général de l'Observatoire de l'éthique publique. Après les révélations de Mediapart, François de Rugy aurait organisé des dîners purement privée avec les moyens de l'Assemblée nationale lorsqu'il en était le président. Aujourd'hui, l'actuel ministre de la Transition écologique affirme n'avoir rien à se reprocher. Donald Trump promet des sanctions considérablement durcies contre Téhéran. Le président américain menace de nouveau l'Iran qui a confirmé lundi avoir dépassé le seuil de 3,67% d'enrichissement de l'uranium, un taux interdit par un accord international signé en 2015. C'est l'une des conséquences de la sécheresse et elle risque de faire mal au porte-monnaie. Le prix des fruits et légumes devrait grimper, affirme sur France Info le directeur général d'Agritel, surtout dans les régions les plus touchées par la sécheresse. En tout, 47 départements sont concernés par des mesures de restriction d'eau. Et puis en tennis, Raphaël Nadal sera face à Roger Federer et Novak Djokovic contre Roberto Bautista Agut. On connaît donc l'affiche des demi-finales de Wimbledon.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Allez, premier commentaire avec vous, Guillaume Daré, de cette intervention. Donc, les deux coprésidents de la Commission nationale d'investiture, Marie Guévenoux et Alain Richard. D'abord, sur le choix de Benjamin Griveaux, bon, sans surprise.
Ça,
c'est pas vraiment l'information, c'est surtout la tension qu'il y avait dans cet échange.
Voilà, j'allais dire, finalement, on se rend compte que La République En Marche est en train d'apprendre à être un parti comme les autres. Il y a une procédure de désignation, on sait pas exactement comment ça s'est passé. Des tensions, quelques pics dans le dos, un résultat éventé une heure avant par l'un des candidats, et puis des menaces d'exclusion, parce qu'on en est là ce soir, hein, quand même, Alain Richard, le coprésident de la commission d'investiture, qui appelle clairement Cédric Villani à se reprendre, et à la question de savoir s'il serait exclu, s'il ne soutient pas Benjamin Griveaux, le candidat désormais de La République En Marche à la mairie de Paris, et ben il dit clairement que ce qui est prévu dans les statuts, si effectivement Cédric Villani ne soutenait pas Benjamin Griveaux, son engagement le lie, et nous avons toute confiance en lui, c'est les mots qui sont employés diplomatiquement.
C'est très menaçant.
C'est menaçant et on sent quand même qu'il y a le coup de pression qui est passé ce soir, probablement aussi pour que la campagne de Benjamin Griveaux ne commence pas finalement par un nouveau sketch et une nouvelle guéguerre en interne à La République En Marche.
Jean-Sébastien Ferjou, cela vous rappelle un peu les machines à perdre du passé, d'autres partis ont vécu ça à Paris?
Je sais pas si c'est une machine à perdre. Moi, je trouve ça un spectacle très étonnant. Je comprends pas pourquoi ils se soumettent à cette espèce de questionnement complètement délirant. Après tout, La République En Marche a bien le droit de choisir le candidat qu'elle veut pour les municipales à Paris, avec des critères qui relèvent à la fois de considérations politiques, de considérations personnelles. Ça fait partie de la politique. On est en train de créer un univers complètement parallèle. C'est-à-dire que ça ne correspond en rien de la vraie vie. En quoi y aurait-il une exigence de transparence qui garantirait plus de démocratie? Parce qu'on sait mieux. Ça, c'est le problème des militants d'En Marche. C'est à eux d'apprécier ça. C'est pas à nous tous collectivement. Quant à leurs engagements ou aux engagements qui sont censés liés, effectivement, on peut comprendre qu'Alain Richard s'inquiète parce qu'ils sont quand même experts en la matière. Regardez, oui. François de Rugy avait participé à la primaire socialiste. Oui. Il me semble qu'il avait signé un engagement de soutenir le candidat qui serait désigné.
Manuel Valls, pareil.
Manuel Valls, exactement. Oui. Marie Guévenoux, qui était chez Alain Juppé, s'est ralliée. Pas dans le cadre d'un accord, hein, juste dans le cadre d'une traîtrise politique. Donc effectivement, on peut comprendre qu'ils soient tous très inquiets, parce que quand on commence de cette manière-là, effectivement, en général, ça augure de la suite.
À la suite de ce premier tour de table, après cette déclaration commune des membres de la CNI, Julie de la Sablière, le ton d'Alain Richard, très menaçant à l'endroit de Cédric Villani, c'est pas très vertueux pour démarrer une campagne, tout ça.
Mais c'est un moment politique, je pense, très important pour La République En Marche, parce que le candidat Emmanuel Macron a toujours été assez anti-primaire dans les partis. Donc il avait décidé qu'il n'en ferait pas dans son propre parti. Et que pour lui, le signe de l'affaiblissement justement des partis traditionnels à l'aube de la campagne, c'était qu'il n'arrivait pas à désigner un leader. Et qu'un parti qui ne sait pas désigner un leader, c'est un parti qui déjà est affaibli. Donc c'est un moment très politique très important. Et je pense que le message qu'il a fait passer à la commission d'investiture, très clairement, devait être, quel que soit le leader, il faut le ralliement. Et je pense qu'il sera il va mettre beaucoup de pression ce soir pour que ce soit le cas. Ça, je n'en doute pas.
Yann Brossa, vous êtes donc, vous, dans le camp adverse. Alors, il faudrait préciser une chose. Vous êtes membre de la majorité municipale. Aujourd'hui, vous êtes maire adjoint d'Anne Hidalgo. Vous êtes en charge du logement. D'abord, juste une précision avant de répondre à la question. Quel sera votre scénario pour les municipales en ce qui vous concerne?
Oh ben ce sera le rassemblement au premier ou au second tour. Mais de toute façon, il faudra bien que la gauche se retrouve avec les écologistes, bien sûr, face à Benjamin Griveaux. J'ai envie de dire a fortiori. Alors, face à Benjamin Griveaux.
Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette déclaration commune d'Alain Richard et de Marie Guévenoux et sur le climat qui entoure le début de cette campagne de La République En Marche?
C'est une bien belle désignation. Ça donne envie de sortir le pop-corn. Il est
à peine désigné qu'il est déjà plombé d'une certaine manière. Et puis surtout, tout ça n'est pas convaincant. Alain Richard nous fait croire que c'était une vraie procédure de désignation. Il nous fait croire qu'ils ont fait une audition qui était honnête. Et dans le même temps, Cédric Villani, une heure et demie avant, disait déjà qu'il ne serait pas retenu. Par ailleurs, Alain Richard dit Benjamin Griveaux a été retenu pour la qualité de ses propositions. Il y a deux semaines, je crois, Benjamin Griveaux faisait des propositions visant à développer la démocratie participative à Paris. Démocratie participative, quand on voit la manière dont ils ont désigné leur propre candidat. Procédure qui n'a rien de démocratique. Tout ça, à mon sens, montre qu'il n'y a rien de très convaincant dans cette affaire. Enfin, en tout cas, qu'il ne change rien.
Allez, je vous propose de réécouter, de réentendre un extrait de la déclaration d'Alain Richard, l'un des coprésidents de cette commission nationale d'investiture, quand il annonce la candidature de Benjamin Griveaux.
Les candidats avaient beaucoup travaillé. Ce qui a conduit les membres de la CNI, et c'est un choix pleinement partagé entre eux, à retenir la proposition de Benjamin Griveaux, c'est la profondeur de son analyse de la situation dans Paris, le très gros travail qu'il avait fait de contact dans la ville depuis longtemps, dans tous les secteurs où va se dérouler l'élection, avec énormément de soutien des adhérents, des militants d'En Marche, très répartis dans tout Paris, et notre perception que, disons, l'éventail de ces propositions répondait très bien aux attentes et aux préoccupations des Parisiens.
Alors Guillaume Daré, ça c'est l'explication, on va dire, officielle, mais au fond, est-ce que Benjamin Griveaux est réellement, des trois candidats qui étaient en lice, qui du moins étaient en finale, était le plus crédible, comme le dit Alain Richard, celui qui était le mieux préparé, le mieux à même d'affronter notamment Anne Hidalgo?
Faut reconnaître quand même que malgré toutes les critiques qu'on a pu émettre ces dernières minutes, tout ce qui a pu avoir ces derniers mois, il a quand même été dans la campagne d'Emmanuel Macron, il a été porte-parole du gouvernement, il a quand même une carrure que probablement les autres candidats n'ont pas. Il est ultra préparé, il a beaucoup bossé son projet. C'est vrai qu'il avait un temps d'avance dans cette candidature à la mairie de Paris. Après, je pense que ce qui va être compliqué pour lui maintenant, c'est qu'en matière de communication, on voit bien qu'il y a, faut le reconnaître pour lui, il y a presque un peu un délit de sale gueule à son égard, et que ces dernières semaines, on a vu que de la part de même nous les médias, l'histoire était plutôt autour de Cédric Villani. Et on voit que ce qui va être difficile maintenant pour Benjamin Griveaux, c'est que l'histoire, elle va être plutôt peut-être dans la remontada d'Anne Hidalgo qui était mal partie et qui est en train de reconquérir les électeurs. Et donc lui, il va falloir qu'il trouve quelle histoire, au sens positif du terme, au-delà de son programme, il va proposer aux Parisiens. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Quel sera son message? Ça, pour l'instant, on ne le connaît pas.
Julie de la Sabillière, le storytelling autour de Benjamin Griveaux, c'est vrai, c'est un peu, comme le dit Guillaume Daré, le côté un peu vilain garçon, un peu sale gueule, mauvais mec. Et là, on a l'impression qu'on raconte une histoire de finale. On le lit ça et là dans des papiers de fond, on va dire, que c'est peut-être un autre personnage. Il y a une sorte de récit qui se fabrique pour ce type de campagne.
Oui, il y a un récit qui se fabrique. Je pense que l'image de Benjamin Griveaux, en fait, pas mal pâtit du fait qu'il soit porte-parole du gouvernement, qui est quand même une fonction qui vous oblige à vous mettre dans une forme de cuirasse aussi, et vous fait perdre un peu le contact avec juste la vie simple. Et c'est vrai que par rapport à Mounir Majoubi ou par rapport à Cédric Villani, il pâtit de ça. Il va falloir qu'il fonde l'armure et qu'il change effectivement un peu son fusil d'épaule en matière de communication.
Allez, on reste sur cette désignation par La République en marche de j'allais dire Cédric Villani, de Benjamin Griveaux.
Voilà, vous avez des informations que nous n'avons pas.
20h50 sur France Info, on marque quand même une pause avec vous. Le rappel de l'info, Solène Cressant.
121 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2018, les chiffres du ministère de l'Intérieur ce soir. Cela correspond à la mort d'une femme tous les 3 jours. C'est un peu moins par rapport aux 130 féminicides recensés en 2017. Benjamin Griveaux, désormais le candidat de La République En Marche à la mairie de Paris, il vient d'être investi ce soir au siège de La République En Marche. Une nouvelle enquête ouverte par le défenseur des droits dans l'affaire de la disparition de Steve à Nantes. Le soir de la fête de la musique, plusieurs personnes sont tombées dans la Loire après une intervention musclée de la police. Jacques Toubon s'est auto-saisi du dossier pour comprendre les conditions de l'intervention. Son enquête s'ajoute à celle de la police des polices, l'IGPN. Kim Darroch n'avait plus d'autre choix. L'ambassadeur britannique aux États-Unis est obligé de démissionner après la fuite de mémos diplomatiques qui ont déclenché la colère de Donald Trump. On pouvait y lire que le président américain était instable ou encore incompétent. C'est sa 12e victoire d'étape sur le Tour de France. Peter Sagan, brillant au sprint, s'est imposé tout à l'heure à Colmar sur la 5e étape. Journée pas si facile en revanche pour Julien Alaphilippe. Notre Français garde son maillot jaune.
France
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Jean-Sébastien Ferjou, est-ce que cette campagne de La République En Marche à Paris, selon vous, démarre de façon un peu ambiguë ?
Je ne sais pas si elle démarre de façon ambiguë, mais je trouve qu'elle démarre en termes de communication assez étrangement, parce qu'il y a la tension assez claire qu'on a vue entre les candidats, mais ça, c'est pas si grave que ça. Ça arrive dans beaucoup de partis, et notamment dans les grandes villes. Mais je trouve que là, on a tellement mis l'accent sur les personnes. Regardez, on parle de ce que nous inspire Benjamin Griveaux, ce que nous inspire Cédric Villani, même Alain Richard, d'une certaine manière, parle plus des personnages, de est-ce qu'il a beaucoup travaillé ou pas, mais quel est le projet pour Paris ? Mais quel est le projet pour Paris ? C'est-à-dire que c'est ça qui est très paradoxal. Ils en ont un. Moi, je vous dis pas qu'ils n'en ont pas. Benjamin Griveaux en a un. Il a travaillé son projet. Je vous dis juste que dans les choix de communication qui ont été faits par La République En Marche, ça détourne l'attention, en quelque sorte, du fond pour l'amener sur cette espèce de concours de beauté. Alors, bien sûr, ça, c'est plus pratique dans le rythme médiatique actuel. Voilà, ça nourrit les cycles d'information sur les chaînes d'information. Mais est-ce qu'on y gagne vraiment en matière de démocratie ? Je suis pas certain qu'on y gagne vraiment en matière de démocratie. Et c'est ça qui va être plus compliqué pour Benjamin Griveaux, c'est qu'une fois qu'on l'a tiré le terrain, enfin sur sa personne, il va devoir en permanence répondre sur sa personne. Et regardez, toutes ses dernières interviews étaient sur sa personne plutôt que justement sur le projet politique.
Alors, Yann Brossa, quand on voit le résultat des élections européennes à Paris, l'électorat est majoritairement marcheur. Hein, La République En Marche, assez massivement finalement. Est-ce que cela dessine un boulevard pour le candidat, donc désormais officiel, Benjamin Griveaux ?
Moi, je ne pense pas du tout qu'on puisse projeter le résultat des élections européennes sur les élections municipales.
Ça donne quand même une idée du nombre d'électeurs, quand même.
Ah, ou du nombre d'électeurs, oui. Mais du résultat pour chaque force politique, je ne le pense pas. D'ailleurs, on a eu des élections européennes par le passé qui n'ont pas du tout conduit au même résultat aux élections municipales qui ont suivi. Mais moi, je pense que, évidemment, mon souhait, c'est qu'on ait un affrontement de vision sur Paris entre Benjamin Griveaux et ce que défendra la gauche au moment des élections municipales. Simplement, je pense que le sujet de La République En Marche, ça n'est pas Paris. Le sujet, ça n'est pas Paris. Le sujet, ça n'est pas d'avoir un projet pour Paris. Le sujet pour eux, c'est d'avoir un représentant de Macron à la mairie de Paris.
Vous n'avez pas la sensation que vous partagez un peu un certain nombre d'électeurs qui vous seraient communs, finalement ?
Bien sûr, sauf que des
électeurs... Dans la sociologie de l'électorat parisien.
Des électeurs qui ont pu voter pour des forces politiques qui soutiennent le président de la République voteront peut-être pour la gauche au moment des élections municipales. Parce que ce qui intéressera les électeurs parisiens, ce sera le fond de ce qu'on propose. Et je ne pense pas que les électeurs parisiens aient envie d'avoir à la mairie quelqu'un qui est d'abord soucieux de défendre Macron. Je pense que les Parisiens ont maintenant l'habitude d'avoir des maires qui les défendent et qui ne sont pas là pour défendre quelque chose d'autre, en l'occurrence l'Élysée.
Allez, il a été beaucoup question ce soir de Cédric Villani. Hein. Je vous propose de réécouter, réentendre ce qu'a dit Alain Richard à son propos.
Être déçu d'un choix, ça nous est arrivé à tous. Il y a une collectivité du mouvement En Marche, il y a une dynamique que nous avons déjà à Paris. Franchement, aujourd'hui, entre qui et qui se joue le match à Paris ? Donc, l'esprit de responsabilité l'emportera.
Alors Guillaume Daré, hein, quand il a publié son communiqué sur Twitter, Cédric Villani a écrit « Fidèle à nos valeurs, j'aurai prochainement l'occasion de m'exprimer sur les perspectives qu'il convient à présent d'ouvrir ». Qu'est-ce que ça signifie selon vous ?
Ah bah, et le finalement, temps, hein, de... pour quelqu'un là aussi qui... dont on doutait qu'il soit très décidé, qu'il soit très politique, Cédric Villani a tout d'un vrai politique. Et c'est vrai qu'il laisse un peu tout ouvert. Est-ce qu'il va soutenir Benjamin Griveaux formellement, comme visiblement il s'y est engagé, comme le dit Alain Richard, le coprésident de la commission d'investiture, ou est-ce qu'il va faire un autre choix ? Parce qu'il y en a d'autres qui vont l'appeler. Je vois que dès ce soir, dès quelques minutes après la décision de La République En Marche, Gaspard Ganzer, l'ancien monsieur communication de François Hollande à l'Élysée, qui est lui aussi candidat à la mairie de Paris, par un tweet, appelle d'ores et déjà les deux candidats malheureux, Hugues Rançon et Cédric Villani, à le rejoindre,
à leur allier,
pour faire une candidature commune à la mairie de Paris. Donc on va voir effectivement comment Cédric Villani se comporte. Après, c'est quand même compliqué pour lui parce qu'il est aussi c'est aussi quelqu'un qui a une image particulière. Il a suscité, là où Benjamin Griveaux a suscité une forme d'animosité, lui a suscité une forme de curiosité de par le personnage, de par ce qu'il peut porter. Faut pas qu'effectivement ça tourne à l'aigreur et c'est un petit peu le risque que met en avant ce soir Alain Richard et qu'on pourrait voir dans les jours à venir.
Julie de la Sablière, pour poursuivre ce que dit Guillaume à l'instant, c'eût été un client plus compliqué pour Anne Hidalgo ou il était un petit peu trop décalé, Cédric Villani ?
Décalé, je crois avoir entendu effectivement dans les propos d'Alain Richard le fait qu'il avait des idées novatrices, mais qui se confrontait pas forcément toujours à la réalité. En tout cas, c'est, il y a eu une allusion comme celle-là. C'est sûr que la commission d'investiture dit clairement que le projet de Cédric Villani semblait moins solide, moins robuste, peut-être effectivement plus innovant sur un certain nombre d'aspects. Mais là, ça n'a pas suffi.
Dernier mot pour conclure avec vous, Yann Brossat. Vous y croyez, vous, au scénario Édouard Philippe, dont on parle tant, qui pourrait jaillir soudain à l'automne pour évidemment essayer d'emporter la mairie de Paris?
Non, j'ai du mal à y croire. Ils ont choisi leur candidat, ils vont devoir le garder jusqu'au bout.
Ah, vous dites ça ce soir, vous ne... pour vous, ce...
c'est leur candidat, ils viennent de le désigner. Par ailleurs, ils ont fait un choix, ils devront l'assumer.
Jean-Sébastien, Matignon affirme en tout cas que c'est pas du tout leur intention. J'étais en Corse avec le Premier ministre la semaine dernière quand il y a eu une tribune par l'ancien maire du Havre en disant il fera un excellent candidat.
Oui, Antoine Ruffinac, oui.
Eux-mêmes sont tombés de leur chaise. Je crois qu'il est très bien à Matignon, il l'a fait savoir et ils expliquent effectivement que pourquoi le président de la République se priverait de quelqu'un qui fait bien le travail pour la mairie de Paris.
Politique fiction, donc, vous nous dites ce soir. Voilà donc pour ce qu'on pouvait dire essentiellement sur cette désignation de Benjamin Griveaux comme candidat désormais aux municipales parisiennes pour La République En Marche. Merci à vous d'avoir été présent ce soir, Julie de la Sablière. Merci Yann Brossat, Jean-Sébastien Ferjou et vous, Guillaume Daret, d'avoir participé à cette édition spéciale des Informés de France Info.